Matière à penser, René Friedman.
Matière à penser, une émission en partenariat avec le quotidien du médecin. Et cette semaine, Matière à penser s'intéresse aux belles histoires de la médecine. Et ce soir, tout particulièrement, Cabanis, un inconnu au Panthéon. Pour en parler, nous sommes aujourd'hui en compagnie de Yves Pouliquen, qui est médecin ophtalmologue, membre de l'Académie française, l'Académie de médecine, et surtout pour aujourd'hui, pour notre rencontre d'aujourd'hui, auteur de Cabanis, un idéologue, de Mirabeau à Bonaparte, publié chez Odile Jacob. Merci d'être là.
Merci.
Alors, cette histoire de Cabanis, je l'ai trouvée assez étonnante, surtout pour un homme qui a bon pied, bon œil. Et qui, bon œil, c'est le cas de le dire, puisque vous êtes ophtalmo, ancien chef de service de l'Hôtel Dieu, spécialiste surtout de la partie avant, de l'œil, de la cornée. Vous avez fait les premières cataractes, qui étaient l'opération de cataracte qui était à risque, on va dire, qui maintenant s'est quand même bien amélioré. Et vous avez écrit un certain nombre de livres, Transparence de l'œil, Le geste et l'esprit. Et puis surtout, une attirance vers, on va dire, le 18e, enfin vers l'histoire de la médecine, et vers l'histoire de certains hommes, comme Félix Vic d'Azyr, Les Lumières de la Révolution et Cabanis. Alors, moi qui adore la période napoléonienne, enfin toute de la révolution à Napoléon, là vraiment on baigne dedans quoi. On revoit tout au travers de ce personnage. Et je dois dire que ce personnage finalement, enfin je dois avouer que moi je ne le connaissais pas très bien. Je connais la rue Cabanis et donc du coup j'ai évoqué, mais je savais pas exactement qui il était. Et quand j'ai appris qu'il était au Panthéon, j'étais un peu surpris, je dois dire. Alors, qu'est-ce qui vous a plu dans ce personnage?
D'abord, c'est une rencontre. Je me suis interrogé sur les médecins qui étaient devenus académiciens.
Oui,
et Vic d'Azyr, comme Cabanis, furent académiciens. Cabanis a une rue, vous le dites, qui borde Sainte-Anne. Donc, pour la psychiatrie, il était quand même connu. Mais c'est vrai que moi-même, je connaissais très peu de choses de lui. Et je me suis intéressé à sa vie. Il faut dire que sa vie est assez passionnante. Né à Cosniac, dans le centre de la France, s'entendant très mal avec son père, s'entendant très mal avec ses éducateurs, des prêtres, et puis les doctrinaires, qui étaient une institution chrétienne, il en a été exclu.
Et, en fait, il était turbulent.
Très turbulent, et on pouvait se penser, et son père était désespéré, car il se disait que jamais cet orphelin de mère, d'ailleurs, n'arriverait à quelque chose.
Elle meurt quand il a 7 ans.
Oui, elle meurt quand il a 7 ans, oui. Et lui, très indiscipliné, son père était un monsieur, un notable, qui, agriculteur, essayait de cultiver la pomme de terre, enfin de faire des choses. D'ailleurs, ami de Turgot. Et c'est par l'intermédiaire de Turgot qui va quand même essayer de placer son fils quelque part. Et ce quelque part, c'était chez un poète, c'est Roucher, qui a précédé ou suivi André Chénier sur l'échafaud, puisqu'ils sont morts le même jour,
tous les deux,
le 7 Thermidor, tous les deux. Et Roucher s'est révélé un havre, de même Madame Roucher aussi, pour ce garçon qui est devenu studieux.
Parce que quand il arrive à Paris chez Roucher, il est tout jeune.
Il a 14 ans.
Ah oui.
C'était assez classique. On mettait les enfants très vite au bord d'un métier parce qu'il fallait faire quelque chose. Là, à 14 ans, il reste chez Roucher 2 ans et il devient très sage, à tel point que Roucher dit à son père, écoutez, je vous renvoie un garçon. Et le garçon dit non, je pars retourner chez mon père. Et à ce moment-là, il devient secrétaire par hasard d'un évêque, l'évêque de Vilna, polonais, qui l'emmène 2 ans en Pologne. Et là, en Pologne, il s'ennuie terriblement et se traduit chez lui tout de même une très grande préoccupation mélancolique. Et ce qui va déterminer au fond une grande part de sa vie.
Alors, il va hésiter entre l'option littéraire, l'option médicale. Comment ça va se
Alors, oui,
préciser
quand il va rentrer de Pologne, il va revenir chez Roucher. Et là, il va se passionner pour les études antiques, mais tous le faisaient. Il traduit l'Iliade, il parle le grec, mais les Chéniers parlaient les grecs, les Depanche parlaient les grecs, les Trudaine parlaient le grec, ils étaient tous extrêmement instruits. C'était la passion de cette jeunesse plutôt dorée qui essayait d'avoir des titres. Et pendant ce temps-là, chez Roucher, il commence à connaître le monde intéressant, celui qui va faire la révolution.
Mais avant, est-ce que c'est pas la rencontre avec un Léon Dubreuil, qui est médecin, qui va le diriger dans la médecine?
C'est un petit peu après.
C'est D'accord.
Chez Roucher, il côtoie quand même une frange un petit peu instruite et intellectuelle, et issue des Lumières. Et à partir de ça, le Roucher réécrit au père en disant, écoutez, mon cher, il va très bien. Et surtout, ce qui m'inquiète, votre fils est malade. Mélancolie, dépression profonde, etc. Et il retourne chez son père, là. Et son père s'inquiète. Effectivement, il maigrit, il fait plus rien, il est dans un état dépressif. Et il retéléphone, il reparle à Roucher, il lui dit, trouvez-moi un bon médecin. Et on trouve Monsieur Dubreuil, le docteur Dubreuil, qui était une certaine célébrité à Saint-Germain-en-Laye. Et là, le docteur Dubreuil s'occupe de lui, devine son état, le prend en charge et le guérit de sa mélancolie et lui démontre l'art médical et la passion que peut entraîner une vocation médicale.
Mais ce jeune homme a quand même un pouvoir d'empathie. Il suscite quand même beaucoup d'aide, d'attirance.
Oui, exactement. Hein. D'ailleurs, ça va se conclure très
vite. Ça va se conclure avec la célèbre Madame Hervécius. Voilà. Alors ça, c'est le clou, quoi. C'est le clou de l'histoire.
Oui, parce que faisant ses études de médecine à Saint-Germain-en-Laye, c'était pas facile. Et un jour, Madame Hervécius, que fréquentait Rouchier, que fréquentait le docteur Dubreuil, dit « ça serait bien que ce petit habite Paris ». Madame Hervécius dit « écoutez, il vient chez moi ». Elle est très hospitalière, puisqu'elle avait déjà chez elle deux abbés, l'abbé Morellet et l'abbé Laroche, qui habitaient dans le pavillon du fond des jardins, et ils se sont dit « pourquoi pas, vous, mon cher ?» D'autant plus que ce cher, il a 22 ans, il est superbe, il est beau comme un dieu. Il a un bras un peu malade parce qu'il est tombé de cheval, mais enfin, il est superbe. Et surtout, il a l'âge qu'aurait son fils, qui est mort à l'âge de 3 ans.
Alors, elle a 59 ans.
Oui.
Alors, c'est une relation mère-fils ou il y a une relation
au début,
amoureuse?
Mère-fils. Mais Morellet, qui est un petit peu taquin, dit qu'il s'en allait quand même tous deux souvent à la campagne, et tous deux, ils ne voulaient personne d'autre. En tout cas, c'est une amitié très amoureuse, et qui fait que Madame Hervécius était folle de lui.
Alors, Madame Hervécius, c'est donc la veuve d'Hervécius, était donc un écrivain, un poète, un penseur.
Un penseur et un matérialiste.
Et un matérialiste, voilà, d'une école. Oui, qui, et elle reprend un peu salon où elle va faire venir l'intelligentsia de l'époque, une partie.
Oui, parce que son mari Hervécius avait un salon célèbre rue Sainte-Anne, où allaient Diderot, Grimm, Holbart, étaient tous les grands. C'était au fond une espèce de salon des Lumières, hein, et qui d'ailleurs commençait déjà à être un petit peu mal vu par le monde de la cour, etc., parce qu'ils étaient très gentils, très
anticléricales,
déjà. Ouais. Donc c'était déjà. Et elle, quand Hervécius est mort, elle est revenue, elle s'est localisée à Auteuil, et dans la grande rue d'Auteuil, et là, elle a refait un mini-salon, mais un mini-salon qui est devenu aussi l'héritier du premier, avec la génération qui a suivi Diderot, etc., et qui comportait Champfort, les Chéniers, la Cépède, Volney, etc. Et donc, tout un foyer d'agitation qui a été sublimé par la naissance de la Révolution.
Et alors, il y a aussi un personnage qui est Benjamin Franklin, qui va en plus faire le lien avec la franc-maçonnerie.
Ah oui, bien sûr, et donc, la loge des Neuf Sœurs.
Voilà, et alors, est-ce que Cabanis, lui, va participer?
Ah oui, absolument.
Il va être franc-maçon.
Ah oui, il va être franc-maçon.
Sans être superactif. Parce que dans la franc-maçonnerie, il y a aussi des royalistes, quoi.
Oui, bien sûr, c'était tout de même l'intrusion dans les Neuf Sœurs d'un contingent des Lumières. Et Benjamin Franklin était très intéressé par Madame Hervécius, qui avait encore des charmes. Il aurait bien voulu l'épouser. C'était pas le premier, parce que Turgot avait voulu l'épouser avant. Oui. Donc elle était belle.
Parfait. Et intelligente. Cette rencontre. Oui.
Donc c'était le monde des Lumières qui était offert à notre cher Cabanis.
Alors Cabanis, donc pour l'instant, il n'est pas encore médecin et non. Il va assister donc logeant. Hein, il va habiter carrément au fond du jardin.
Il va être son hôte tout le temps.
Et voilà.
Toute sa vie.
Et même après, il va même hériter, hein, je crois.
Oui,
de la fameuse ferme d'Auteuil.
Oui,
oui. Et puis arrive la Révolution, quoi.
Voilà.
Donc 89 jusqu'en 92, et là, il va connaître Mirabeau.
Oui, alors quand se prépare la Révolution entre 85 et 89, il fait ses études de médecine et il commence déjà à s'intéresser à une médecine vraiment positive. Enfin, il est contre l'empirisme, contre les charlatans, contre l'organisation des hôpitaux. Il a déjà plein d'idées.
Il faut dire qu'à ce moment-là, la médecine, c'est pas simple. Hein. Je dirais aujourd'hui peut-être pas non plus, mais c'est un autre sujet.
Un peu moins. Mais dans un sens, il retrouve les idées de Vic d'Azyr, c'est-à-dire des gens qui ont voulu nettoyer la médecine de l'empirisme, de tout ce qui était faux, pour s'en tenir vraiment aux causes premières des maladies et d'essayer de trouver des traitements.
Même si je ne comprends pas, je traite.
Voilà, hein. Oui, si je ne comprends pas, je traite. Alors qu'eux étaient, il faut que je comprenne pour traiter.
Et alors, il y a des choses incompréhensibles encore aujourd'hui.
Et avec des notions d'hygiène, etc. Et aussi, bien sûr, la perception que l'esprit était beaucoup dans la pathologie médicale. Ça commence là. Mais c'est vrai que la Révolution arrive, et là, c'est l'enthousiasme. Il est entouré de Chamfort, de Volney, de Gara, qui sont des vrais révolutionnaires, hein, qui voient déjà plus loin même qu'une monarchie constitutionnelle. Ils imaginent déjà presque qu'on pourrait aller jusqu'à une république.
Jusqu'à la république.
Ça casse d'ailleurs la maison Helvétius, parce que l'abbé Morellet, lui, au contraire, freine ces gens. Il y a des accros de plus en plus fréquents. Et là, il y a une dissolution de la cellule helvète, dirons-nous, pendant quelque temps. Mais Mirabeau l'attire. Et là encore, ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est que le charme de Cabanis a sûrement été important. Car Mirabeau, qui était quand même très préoccupé, s'intéresse à lui tout de suite. Et c'est Volney et Chamfort, qui déjà travaillaient pour Mirabeau, qui l'associent à cet entourage de Mirabeau qui va écrire les réformes de l'Académie de médecine française pour Chamfort, les réformes de l'enseignement et de l'éducation pour Cabanis, et ils vont devenir les écrivains de Mirabeau. Et Mirabeau va tomber malade.
Et il va être aussi son médecin.
Volney dit, il faut que tu soignes Mirabeau. Et là, je pense que, d'après ce que j'ai pu comprendre, il devait avoir une cochonnerie inflammatoire chronique ou une connectivite ou je ne sais pas quoi, avec des signes oculaires, des signes généraux. Et finalement, Mirabeau va mourir. Et le pauvre Cabanis va être accusé de l'avoir mal soigné, ce dont il va se défendre par un grand texte, etc. Mais là, il est rentré dans la Révolution. Et à Auteuil, il va jouer le jeu. Il va jouer le jeu, il va être l'adjoint au maire. Il va contribuer aux choses. Il va mettre le buste de Voltaire, le buste d'Helvétius dans la mairie. Jusqu'à ce que 93 pointe. Et à ce moment-là, il devient très effacé. Il comprend que les choses tournent mal. Et
C'est-à-dire qu'il a autour de lui pas mal de dégâts. Condorcet lui-même va se poursuivre. On raconte l'histoire que c'est lui qui lui aurait donné la fiole de poison pour Condorcet, que Condorcet lui aurait demandé au cas où il était arrêté.
Il l'a donné à plusieurs personnes. Il l'a donné à Condorcet, il l'a donné à Bonaparte aussi. Car Bonaparte venait aussi là, il connaissait. Mais
on va voir après le lien avec Bonaparte.
Problème, il était le beau-frère en plus de Condorcet.
Oui, par la famille de Rougy.
Pas en même temps. Enfin, il était l'amant de la sœur de Madame Condorcet. Lui a fait un enfant qu'on a un petit peu caché. Il ne l'épousera que plus tard, qu'après Thermidor. Mais il est le beau-frère de Condorcet. Et Condorcet, il l'a fréquenté chez Madame Helvétius. Enfin, c'est un ami dont il se sépare peut-être un peu en 92-93 parce que Condorcet devient, lui, très, très révolutionnaire. Et il rompt avec pas mal de ses amis.
Mais c'est vrai qu'on peut se poser la question, comment a-t-il échappé, lui, parce que Condorcet donc se fait poursuivre, Roucher se fait guillotiner, il a quand même beaucoup dans l'entourage, il arrive à tenir un peu...
Il a été sur une liste de suspects. Et à partir de ce moment-là, il a fait profil bas. Il s'est mis à soigner le village. En fait, il s'occupait plus de politique. En réalité, il assurait.
Et même,
que...
il participe pas aux journaux comme la Décade,
oui,
le Conservateur,
sûr, oui,
et tout ça.
C'est plus tard.
C'est un peu plus tard.
C'est plus tard.
C'est sous le directoire. Ah oui.
C'est après la fin. Thermidor qui va reprendre. Il va reprendre même d'une façon dominante. Condorcet va essayer de le sauver. Il va essayer de le sauver car c'est lui qui trouve l'aide de deux médecins conventionnels qui n'ont jamais trahi la présence de Condorcet condamné à mort par la Convention. Ils n'ont jamais trahi le lieu où se cachait Condorcet. Et il organisait des visites de sa femme en cachette qui se déguisait, etc., pour aller rue Servandoni. C'est une certaine Madame Mallet, si je me souviens bien, qui elle-même n'a jamais rien dit et a abrité Condorcet jusqu'à ce que se retrouvent Cabanis, Condorcet, Vic d'Azyr. Vous allez voir comment. Vic d'Azyr, en pleine frayeur, terreur, terrorisé, puisque médecin de Marie-Antoinette,
voilà,
médecin
ça,
Louis XVI,
c'est le médecin,
menacé au premier titre. Est sauvé par Fourcroy, qui était le remplaçant de Marat à la Convention et qui était le fils d'un pharmacien dont Vic d'Azyr avait payé les études. Donc Fourcroy, qui était révolutionnaire, qui était même proche de Marat et de Robespierre, sauve Vic d'Azyr en le mettant collecteur de salpêtre. C'est fantastique, cette période. Et collecteur de salpêtre, il sait, lui, où est Condorcet, et il va 8 jours avant ou 5 jours avant dire il va y avoir une visite domiciliaire pour la récolte dans vos caves du salpêtre, et voilà, nous allons venir. Et ça voulait dire que Condorcet allait être découvert, qu'il fallait qu'il parte. Et il est parti, il a erré, il a voulu retrouver ses amis soir ayant un rôle bizarre là-dedans. Finalement, il erre pendant 3 jours, il meurt de faim, il va dans une auberge, il commande une omelette de 12 œufs.
Et ça, c'est le ceci.
Il a une montre de personnes riches. Deux types le regardent, disent celui-là, c'est un. Il a l'air d'un clodo, mais c'est un noble. On l'arrête, on l'interroge, il donne un faux nom. Et il meurt. Alors on dit que théoriquement, il a avalé le poison que lui aurait donné Cabanis, qu'il l'a donné à plusieurs autres révolutionnaires. Et moi, je crois qu'il est mort plutôt d'un accident vasculaire cérébral, car il avait déjà fait une première atteinte 2 ans avant. Et il n'a jamais été prouvé qu'on avait trouvé du poison sur lui. Voilà, l'histoire de Condorcet. Et c'est lui qui, ensuite, avec Madame Condorcet... Sophie Grouchy, retrouvera la tombe de Condorcet qui était inhumée sous un faux nom.
Ben oui.
Voilà. Donc c'est une grande aventure. Mais là, c'est la période du directoire, donc qui arrive. Et pendant le directoire, c'est le triomphe des idéologues.
Voilà. Alors, dans votre livre, Yves Pouliquen, vous l'appelez Cabanis, un idéologue.
Oui.
On pourrait croire comme ça que c'est une caractéristique du personnage, qui est vrai, mais c'est surtout un groupement.
C'est un
groupement qui s'appelle les idéologues et qui vont laisser trace, je dirais, de leurs réflexions.
Ah oui.
Et puis après, il y a la suite des idéologues, hein, c'est-à-dire les descendants, on va dire,
oui,
des idéologues.
Ah oui.
Donc, et c'est là, effectivement, qu'il va jouer sur des... sur la Décade, sur le Conservateur,
oui, voilà.
Ils vont écrire dans ces journaux leurs idées qu'on va revenir détailler tout à l'heure. Il est professeur d'hygiène à la Nouvelle École de Médecine,
oui.
C'est-à-dire que parallèlement à ses réflexions et sa philosophie et même son action politique et son action médicale, puisqu'il a quand même aussi des actes médicaux, il va prendre du galon, je veux dire, si on peut dire, du côté médical, et bientôt on va le retrouver député des 500 et pro bonapartiste,
mais après Brumaire. Brumaire, il est avec Sieyès, il est avec Talleyrand, il est avec tous les idéologues partisans d'une chute du directoire, et finalement avec Sieyès il conseille après Joubert, qui, lui, va avoir des ennuis, donc ne va pas pouvoir représenter l'homme fort qui pourrait faire un coup d'État. Donc, on va se fixer sur Bonaparte qui revient d'Égypte. Et il va y avoir l'organisation de Brumaire.
En fait, il y a participé.
Ah, complètement. Mais même plus que ça. Puisque, oui, à ce moment-là, Bonaparte le charge d'écrire le soir même l'avis aux Français que le directoire c'est fini, qu'une autre ère commence. Et là, il se mouille complètement. Et c'est un petit peu contre ses idées, car il est quand même beaucoup plus libéral.
C'est-à-dire que là, peut-être, il priorise la fin du directoire.
Voilà,
mais... Il veut vraiment... Mais après, on va voir au fil des années, assez rapidement...
Ah ben, il vient opposer.
Il va venir opposer à Napoléon.
Comme tout cela. Et ceux-là se réunissent tous, curieusement, dans la deuxième section de l'Institut qui a été créé par le directoire, et dans la deuxième section qui est exclusivement les idéologues, qui ont pour pensée, pour ambition, d'imposer à Bonaparte ou à tous ceux qui gouvernent leurs propres idées. C'est-à-dire une espèce de chambre chaude, haute, dans laquelle on va donner des idées au pouvoir. Et naturellement, Napoléon ne lui donne pas, Bonaparte, on ne lui conseille pas les choses, il les fait.
Oui, et en plus, ils ont peut-être des opinions assez, on va dire aujourd'hui, j'ai envie de dire de gauche, quoi. C'est parce qu'il est quand même contre l'esclavage, peine de mort.
Bien sûr.
Il refuse la tyrannie,
c'est tout l'héritage des révolutionnaires. Je veux dire, ceux qui au début ont opté pour la monarchie constitutionnelle, c'est-à-dire une révolution douce, aimable, et qui là se retrouvent face à une autorité, à Bonaparte, et ça se bloque un petit peu.
Alors, il va devenir sénateur, peut-être en remerciement du soutien du Lucie Brumaire. Ouais. Bonaparte va le faciliter, cette nomination. Il va être à l'Académie française en 1803.
Alors oui, c'est vrai. Alors là, c'est un autre ouvrage qui va sortir maintenant et qui raconte toute cette histoire.
Très bien, on va pouvoir se revoir. Pour nos auditeurs voilà un peu son parcours politique qui, malheureusement, va être un peu raccourci parce qu'il va mourir jeune. Il aura 51 ans, en 1808.
Il va se retirer assez vite. Assez vite, même, il ne va pas à l'Académie. Il va y aller presque jamais à l'Académie. Et il n'ira qu'une seule fois pour faire rendre un hommage à un disparu. Mais il est déjà malade. Mais il a fait déjà son grand ouvrage. C'est du rapport de l'esprit et du moral chez l'homme.
Voilà. Alors, on va marquer une pause musicale et puis on va revenir sur, d'une part, ses idées en tant que médecin, de réorganisation de la médecine qui vont apparaître, et puis, bien sûr, sur le plan philosophique auquel il a beaucoup contribué. Thank you.
France Culture, Matière à penser, René Friedman.
Matière à penser, nous sommes ce soir en compagnie de Yves Pouliquen qui a écrit le livre Cabanis, un idéologue de Mirabeau à Bonaparte et qui a choisi cette belle musique réalisée par le quatuor Girard qui interprète le quatuor à cordes numéro 1 de Camille Saint-Saëns. Alors vous êtes impliqué aussi dans tout le développement musical, hein, vous aimez bien.
Oui, ben la médecine mène à tout.
Enfin là, vous avez une fondation qui développe les jeunes artistes, et c'est pour ça que je
et là, c'était le quatuor Girard.
Voilà, le quatuor Girard, je tenais à le dire. Alors revenons à cet inconnu illustre, comme on dit, Cabanis, pas assez connu de nos concitoyens, qui d'une part a donné des idées importantes sur le plan de la médecine, de l'organisation de la médecine. C'est pas quelqu'un qui a découvert un virus, une bactérie, enfin qui a fait un acte fondateur sur le plan médical, mais c'est plutôt dans l'organisation, dans le concept même de la médecine. Et il va donner surtout des éléments de réflexion sur le fonctionnement du cerveau, et donc sur la psychiatrie, et donc sur la psychologie, et donc sur toute une ouverture comme ça. Et vous le disiez tout à l'heure, Yves Pouliquen, la rue Cabanis, c'est à côté de Sainte-Anne. Ouais, c'est pas tout à fait par hasard, on s'en doute. Alors, le voilà donc avec sa première observation, on revient un peu en arrière dans son histoire, en 1790, où il va faire des observations sur les hôpitaux, il va prôner les petits pavillons de 150. Ça sera un défenseur des petites maternités aujourd'hui.
Exactement, oui, peut-être. Non, ce qu'il essayait surtout, c'est de séparer les malades contagieux les uns avec les autres. Il avait déjà compris qu'il y avait l'hygiène, qu'il y avait... Vic d'Azyr a fait beaucoup là aussi. Il y avait tout de même le sentiment que les hôpitaux, c'était puissant, on pouvait plus mettre trois malades par lit, hein, qu'il fallait les séparer. Donc les petits pavillons aussi, c'était pour rompre les grandes contagions. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que son premier écrit, qui ne sera publié qu'en 89, mais qui était fait avant, c'est décrit des certitudes de la médecine. C'est-à-dire qu'il mettait en doute qu'il y avait beaucoup d'incertitudes. Et ça a été son obsession tout de même. Comment trouver les causes premières des maladies? C'était son leitmotiv, trouver les causes premières des maladies. Ce qui, à l'époque, n'intéressait pas tout le corps médical. C'est les sérieux, mais il y en avait beaucoup qui vivaient d'empirisme, en jugeant au hasard, en disant des diagnostics de hasard et des thérapeutiques encore plus hasardeuses, dirons-nous.
Il va être confronté à Mesmer, là, le gars qui développe le magnétisme.
Oui, il va se laisser faire un peu.
Un peu.
Il va être tenté. Et là, on l'a remis au pas. Et Mesmer a peut-être eu pour lui un inconvénient, c'est qu'on n'a plus voulu qu'il passe la thèse de médecine à Paris parce que tous les médecins qui avaient opté pour Mesmer étaient exclus de l'université de Paris. Et il est allé passer sa thèse à Reims ou à Metz. À Reims.
Donc, alors, il essaie de réunir sous la profession de médecin, chirurgien et médecin. Il dit que l'art de guérir ne se divise
pas, hein.
D'une part, il va créer trois écoles de médecine.
Oui, exactement.
Paris, Montpellier et Strasbourg. Oui. Une police médicale contre le charlatanisme, justement, que vous évoquiez tout à l'heure, Yves Pouliquen. Et il va réorganiser les études médicales, et qui vont durer quand même jusqu'à presque de nos jours.
Oui, bien sûr.
Le dernier changement, c'est de nos jours. Mais pendant 150 ans, il va avoir...
Non, mais c'est une vraie fondation que à ce moment-là, Vic d'Azyr et lui ont fait. Et en plus, il s'intéressait à l'instruction. Non, des médecins, mais aussi à l'instruction publique.
Il voulait des écoles partout.
Oui, à la sélection des enseignants, comment il fallait faire des enseignants, etc. Donc, un esprit très ouvert et très large. Mais son grand travail, c'est le rapport du physique et du moral de l'homme.
Voilà.
Alors ça, c'est un énorme travail. Et quand je l'ai lu, il y a trois volumes énormes, pas toujours simples à lire parce que le cheminement des idées, quelquefois, s'égare.
On va essayer de rentrer dans son raisonnement. Il y a Cabanis, Descartes et Damasio.
Et on va mettre Locke aussi.
Et Condillac, bien sûr.
Oui.
Donc, c'est quoi l'histoire?
Eh ben, l'histoire, c'est que c'est parti du sensualisme.
C'est-à-dire, ce sont les sens qui créent
la pensée. Très, très, très agressive vis-à-vis d'une pensée cartésienne, où c'est l'esprit et l'âme. L'âme, c'est donc le rapport avec le divin. Et l'homme, là-dedans, l'objet soumis, subordonné à cela. Et là, il fait vraiment un travail de physiologiste en disant que tous les sens, finalement, créent non seulement le comportement de l'homme, mais crée sa pensée.
Et alors, il va employer une image qui est un peu bizarre, hein, puisqu'il dit que c'est le cerveau qui digère les impressions hein, pour élaborer la pensée, comme l'estomac digère les aliments. Alors là, c'est panique à bord, quand même.
Et alors,
on a pu dans le divin, là.
Et aussi son affirmation qui a fait vraiment trembler l'Église. D'ailleurs, on se vengera de ça après. Hein. C'est du moment que nous sentons, nous existons. Je sens, donc je suis, et non pas je pense, donc je suis. Et Damasio, là, tout à fait d'accord. Hein, c'est vraiment prémonitoire. Il est allé aussi beaucoup plus loin, c'est qu'en réalité, il a fait des limites à l'âme.
Il a bien distingué l'âme
et la
psyché, pensée.
Voilà.
Hein, il a séparé. Il ne sait pas trop sur l'âme, finalement, surtout à la fin de sa vie.
Oui, il est revenu là.
Mais par contre, il dit bien la pensée et le corps, idem.
Voilà, exactement.
On ne peut pas dissocier l'un de l'autre.
Donc, médecin, analysons. Nous avons le droit d'analyser la pensée comme le corps. C'est ce qu'avant, on s'interdisait. Et d'ailleurs, sans aller très loin, il y a encore des pays où finalement la pression religieuse mettant l'âme au premier plan interdit toute psychiatrie un petit peu agressive. Hein et là, nous en étions là. Et il a donc déterminé un état. Il a offert aux médecins l'esprit, donc l'ouverture de la psychiatrie.
Voilà, pour vous, et c'est repris dans la rue qui longe Saint-Anne encore une fois, il est à l'origine de beaucoup de choses, de l'embryologie, de la sexologie, de la neurophysiologie
C'est un grand physiologiste, c'est aussi un grand philosophe, et il a mêlé entièrement, on disait même de lui à l'époque, il mêle la philosophie à la médecine et la médecine à la philosophie. Et c'était un grand moment. En réalité, ça a été peut-être...
Peut-être regretter qu'il n'y en ait pas assez aujourd'hui, des philomédecins.
Ah oui, mais il faut dire que nous sommes envahis d'une telle technologie et si brillante que...
Mais ça n'empêche pas.
Ah non, je suis absolument d'accord, même on pourrait faire toute une émission là-dessus.
Oui.
Mais c'est vrai, non, mais le côté de la relation humaine reste justement essentielle, dominante et absolue.
Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'à l'époque, il y a une défiance, on l'a dû, parce qu'il y a beaucoup de charlatans, il y a une défiance de la médecine un peu héritière de Montaigne, peu héritière de Molière, même de Rousseau.
Oui, oui.
Et donc, il va essayer de distinguer la connaissance du symptôme et peut-être cette tentative de guérison des causes exactes, parce qu'à l'époque, on ne connaît pas les microbes, on ne connaît pas beaucoup
de choses. Donner une objectivité à l'acte médical et de ne se rattacher qu'à des choses authentiques, visibles, comprises, ce qui n'a probablement pas ouvert tellement à la guérison, parce qu'il n'y avait pas tellement de moyens, mais en tout cas, ça a mis les bases essentielles d'un raisonnement médical, de notre diagnostic.
Alors, qu'est-ce que c'est maintenant que cette histoire de cette lettre qui est publiée en 1824, donc bien après sa mort alors, pour dire qu'il est au Panthéon, parce que à ce moment-là, les sénateurs
allaient au Panthéon.
Oui. Alors, ceux qui étaient nommés sénateurs par Napoléon, et avant que Napoléon s'en aille.
Oui.
Donc, il faut être nommé et mourir de 1800 à 1815 pour avoir le droit au Panthéon.
Voilà, exactement.
Parce qu'après Louis XVIII, c'est fini.
Pardon, le cœur de notre ami Cabanis devait rejoindre le cercueil de Madame
Helvétius.
Et ça ne s'est pas fait. Ça ne s'est pas fait. Voilà. Bon, parce que leurs deux tombes sont à côté l'une de l'autre, dans le petit cimetière de la rue du Michel-Ange. Voilà. Voilà. Mais oui, il a quand même dans la lettre à Fauriel. Fauriel.
Alors, c'est qui Fauriel?
Alors, Fauriel. Fauriel, il a été secrétaire de Fouché. Une carrière aussi révolutionnaire, bizarre, enfin, oscillante. Il a survécu. Et même quand Condorcet est mort, Sophie Grouchy, sa femme, qui était une anti-bonapartiste, très grande amie de Madame de Staël, est devenue la maîtresse de Monsieur Fauriel. Étant l'amant de la belle-sœur de Cabanis, il se retrouvait au château de la Villette, qui était le château de Grouchy, le maréchal. Et là, il discutait philosophie, etc. Et, car Cabanis, à ce moment-là, ne se déplaçait plus. Il avait 45, 48 ans, il était déjà très malade. Et il n'allait pas à l'académie pour ça non plus. Et il discutait avec Fauriel ou avec Destutt Tracy, son élève, son disciple.
Quel drôle de nom, Destutt
Tracy. Oui, Destutt Tracy.
Ah,
oui,
Destutt Tracy.
Oui, c'est drôle.
On disait Tracy, d'ailleurs.
Oui, Destutt Tracy.
Il était un peu copain avec lui.
Je dirais qu'ils discutaient ensemble philosophie, etc. Et au travers de ce que Fauriel en comprenait, on sentait que tout le matérialisme qui avait géré, au fond, la pensée de Cabanis durant sa vie, était peut-être tout de même en train de concéder qu'il y avait probablement tout de même dans les causes premières sur lesquelles il écrit, un principe de vie, pour ne pas dire Dieu, mais un principe de vie dont il déniait d'ailleurs que ce principe de vie puisse avoir un rapport quelconque avec un jugement ou le comportement des hommes.
Mais là, il ne pensait pas au grand architecte.
Pas vraiment.
Des francs-maçons, quoi.
Non, pas du tout.
Pas du tout.
Mais il se disait, il y a quelque chose d'immatériel. D'immatériel qui est le principe de vie, que le principe de vie domine tout, les végétaux, les animaux, les structures, même granitiques, etc. Ce principe de vie est partout, sans lui donner de nom. Principe de vie. Et alors, libre à chacun d'y mettre un nom, mais lui ne mettait pas. Et surtout, dénier à cela un pouvoir de jugement. À ce moment-là, il critique encore là-dedans tout le rôle qu'a eu l'Église dans le jugement, dans l'oppression qu'elle a fait sur la morale des hommes, etc., etc. Et il fait seulement quelques concessions à celle-ci dans l'organisation d'une certaine union des hommes entre eux avec quelques règles morales à l'origine. Mais après, il dénie tout pouvoir. Et dans son principe de vie, il n'y a pas tout de même le mot Dieu. Sauf que beaucoup de gens se sont dit, principe de vie, Cabanis y croyait en Dieu. Et il y a eu beaucoup de discussions autour de la lettre de Fauriel, la lettre à Fauriel, qui finalement laissait entendre qu'il n'était pas aussi matérialiste que ça. Et ça servait à ce moment-là. Ça servait. Pourquoi ça servait? Parce qu'on est en 1802. 1802, il va mourir en 1808. Les discussions sont de 1802.
Mais publication est beaucoup plus tard.
Beaucoup plus tard.
Pourquoi il publie en 24, justement?
Eh bien, parce que je crois que...
Fauriel.
Fauriel, je crois qu'il en a fait un coup, là. Je crois qu'il a fait un coup personnel. Hein. Je ne suis pas sûr que...
Mais politiquement, c'était pas...
Oui,
intéressant pour
lui
de ressortir
bien
ça
sûr,
avec un moment
parce
où il y a
depuis,
une restauration du cléricalisme.
Depuis 1802, avec le génie du christianisme, le concordat contre lequel Cabanis s'était battu et s'était même fâché avec Napoléon. Et il y avait un retour du pouvoir religieux, et après la chute de l'Empire, ce sera encore pire, puisqu'on ira jusqu'à nier complètement le rôle de Cabanis et avoir Rémusat en fera un tableau épouvantable. Il y a vraiment un retour de la religion et d'une pression contre tout ce qui avait été les Lumières et les gens des Lumières, et Cabanis va être étouffé. Et c'est un peu pour ça qu'on ne le connaît pas. Il y a eu toute la fin du siècle a été contre Cabanis. Et cependant, Cabanis et Destutt Tracy ont inspiré beaucoup de gens, ont inspiré la médecine, la psychiatrie, ont inspiré aussi la philosophie. Schopenhauer était un antichet de Cabanis, tout. Et il connaissait Destutt Tracy aussi, avec lequel il a beaucoup parlé. Et Stendhal même a cherché à rencontrer...
Stendhal était très passionné par la pensée de Cabanis.
Oui, par la pensée de Cabanis. Et Stendhal même est allé rechercher la pensée de Cabanis au travers de Destutt Tracy. Et qu'il a rencontré tout de même dans... Destutt Tracy était déjà un monsieur assez vieux. Et donc, il a laissé un travail, mais dans le monde culturel de la fin du 19e siècle, Cabanis avait disparu.
Cabanis, en fait, moi, comme ça, en lisant votre livre, hein, je dirais, mais en lisant les extraits que vous donnez, on a l'impression que son grand pas en avant, c'est qu'il cherche à trouver des attributs physiques, des structures mentales. Mm-hmm. Et que ça, c'est quelque chose qui va ouvrir la porte à toute la neurobiologie d'aujourd'hui.
Bien sûr, bah évidemment.
Et que c'était très novateur.
Ah ben oui, mais ça, là y a, dans ces travaux précis, les travaux de neurologie précisément, c'était un homme tout à fait remarquable avec, je dirais, une intuition. Car ce qui est merveilleux dans ces hommes du passé, c'est quand, dans leurs pensées, dans leurs écrits, il y a un chemin intuitif, mais qui est vrai, et que les successeurs vont démontrer comme étant vrai. Et ça, c'est tout à fait extraordinaire.
Alors, les idéologues, ils ont fait des petits ?
Les idéologues, ils ont fait des petits contre Bonaparte. Ça, ils se sont beaucoup excités avec lui. Ça a été leurs ennemis les plus constants. Mais après, les idéologues, oui. Enfin, je veux dire, la fraction matérialiste de l'humanité peut s'inspirer des idéologues, si l'on veut bien le dire. Mais ils sont noyés aussi maintenant dans d'autres courants. Et ils sont allés encore plus loin dans l'idéologie. Puis-je penser, maintenant, nous sommes dans une ère idéologue absolue, non ?
On peut le dire comme ça. En tous les cas, je ne peux que conseiller de lire votre livre publié chez Odile Jacob, Yves Pouliquen, Cabanis, un idéologue de Mirabeau à Bonaparte. Parce que d'abord, on parcourt sous un angle donc d'un homme de talent qui attire l'attention, la sympathie. Donc au travers de lui, on va revivre tous les épisodes de ces 10 années incroyables entre 89 et 1800, c'est-à-dire entre la Révolution et l'Empire. Et même un peu après. Et donc, on voit l'amorce d'une réflexion scientifique, matérialiste, pas dénuée d'interrogations sur l'immatériel, sur l'incompréhensible. Mmh. Mais moi, j'ai bien aimé dans Cabanis et dans ce que vous avez rapporté, cette distinction entre l'âme, point d'interrogation, qu'on laisse à la réflexion de chacun, la pensée et le corps, inséparables.
Inséparables, voilà. Exactement.
Il n'y a pas de pensée sans corps, il n'y a pas de corps sans pensée, sauf qu'il est altéré, bien entendu. Merci de votre participation.
Merci.
Nous avons écouté avec intérêt donc cette émission avec l'aide de Catherine Donnet, de Sandrine Chaperon, de Dany Journeau, de Jean-Guilain Meige, de Joséphine Lamprea. Bien sûr, vous retrouverez toutes ces informations sur le site internet franceculture.fr, le réécouter autant que vous le souhaitez. Et nous retrouverons demain, pour terminer cette série que nous avons intitulée « Les belles histoires de la médecine », nous serons avec Philippe Bouchard pour nous parler d'un autre grand, Grégory Pincus, ou l'homme qui inventa la pilule contraceptive.